Alors, reprise des chroniques régulières, de la saison régulière. Yves Gingras, c'est vous qui cassez la glace. Bonjour Yves.
Bonjour.
Bonnes vacances.
Vous aussi.
Oui, merci. Alors, on recommence, on reprend le collier et vous décidez de prendre un gros morceau tout de suite pour inaugurer votre saison. Les conflits d'intérêts. Vous allez nous parler de l'histoire des conflits d'intérêts dans le milieu scientifique, évidemment. Mais d'abord, on va commencer par le commencement. Professeur Gingras, une définition pour vous de ce que c'est qu'un conflit d'intérêts.
Il y a plusieurs définitions, mais celle que j'aime le plus, qui paraît surprenante et que j'appellerais qui est dialectique, c'est qu'il y a conflit d'intérêts lorsqu'il y a des intérêts en conflit.
Vous m'en direz tant.
Belle tautologie.
Oui, c'est
mais
ça.
En inversant conflit d'intérêts en disant intérêt en conflit, ça nous met tout de suite sur la piste que des intérêts en conflit, c'est des groupes distincts qui regardent les autres et qui vérifient ce qu'ils font, qui ont intérêt à dénoncer certaines choses.
Exactement.
Et donc, si on pense dans ces termes-là, on s'aperçoit que quand on parle de conflit d'intérêts, lorsqu'on lit sur les conflits d'intérêts, même dans la littérature soi-disant sociologique savante, il y a une perception, à mon avis, anhistorique. On a une perception du conflit d'intérêts comme si c'était quelque chose d'en soi qu'on peut remonter jusqu'aux Grecs, jusqu'aux Babyloniens et parler de conflit d'intérêts. Or, pour un historien et un sociologue, il y a nécessairement une historicité de la perception par les acteurs de conflits d'intérêts.
Je veux des exemples pour bien comprendre.
Et donc, revenons maintenant au concret. Lorsqu'on regarde l'histoire du Conseil national de recherche du Canada, qui est créé en 1916,
oui.
Lorsqu'il est créé, on veut coordonner les relations entre l'industrie et les universités.
Oui.
Donc, bien sûr, pour ces grands conseils-là, on cherche des gens reconnus, on cherche des gens capables de régler ces problèmes-là.
Qui ont une crédibilité scientifique, oui.
Et on sait vers qui se tourner. Mais en 1916, au Canada, il y a environ une cinquantaine de scientifiques qui ont un PhD, à peu près. Vous voyez
c'est
le nombre,
beaucoup,
c'est microscopique. Et parmi ça, il faut en trouver disons, une douzaine qui vont gérer le CNR. Bien sûr, on trouve quoi? On trouve les plus grands professeurs de l'Université de Toronto, John A. McCallum, on trouve aussi les professeurs de l'Université McGill,
probablement.
En gros, donc les deux grandes universités. Lorsqu'on fait l'histoire de ça, et qu'on lit ça à la lumière de nos yeux actuels, des journalistes surtout, bien sûr, crieront au scandale. Voici pourquoi. Le Conseil est créé en 1916. Comme il est constitué surtout d'universitaires, la première chose qu'il fait, il dit, ben, créons des bourses pour les universitaires et donnons des subventions de recherche aux universitaires. Et pour faire ça, il doit créer des comités pour évaluer les demandes.
Oui.
Et encore là, sur les comités, il faut des gens qui sont reconnus.
Qui sont crédibles.
Ils sont crédibles. Et c'est qui ces gens-là? Ben, c'est difficilement quelqu'un d'autre qu'à peu près eux-mêmes.
Qu'eux-mêmes, oui, c'est
et
ça.
Et donc, si on regarde qui a les bourses, ben, c'est à peu près leurs étudiants.
Mm-hmm. Donc, ils se donnent à eux-mêmes ou à leurs étudiants.
C'est ce qu'on percevrait, mais dans l'idéologie du champ scientifique, on parle de méritocratie.
Oui.
C'est que, bien sûr, le mérite, hein, c'est la méritocratie, c'est les meilleurs qui doivent avoir les ressources. Et c'est pas, pour eux, surprenant, c'est un principe idéologique qu'on n'est pas pour donner à ceux qui sont pas bons.
Donc, on crée le Conseil national de recherche.
Et on s'aperçoit qu'il y a une concentration,
ces gens-là, oui.
concentration des ressources.
Oui.
Et qui va dénoncer ça? Personne, tant qu'il n'y a pas une petite université qui, elle, se sent exclue. On peut penser au début à l'Université Queen's,
oui.
qui rapidement donc est mise, elle aussi, dans le comité. Et donc, la critique des intérêts en conflit s'estompe. Donc, de 1916 à 1939, le système de la recherche est géré, en gros, par trois grandes institutions. Le Conseil national de recherche, l'Association nationale des universités canadiennes et la Société royale du Canada. Mais si on gratte les étiquettes des institutions, on voit que lorsque le CNR veut créer, par exemple, en 1929, une revue savante qui s'appelle la Revue canadienne de recherche,
oui.
elle demande à la Société royale du Canada si elle est d'accord et si elle est prête à la subventionner en partie. La Société royale du Canada dit oui. Mais lorsqu'on regarde, ce sont les mêmes, bien sûr.
Les mêmes personnages.
Qui sont élus à la Société royale, qu'on retrouve sur les comités.
Je me demande à moi-même la permission de...
C'est à peu près ça.
Oui.
Et même à l'Association nationale des universités, qui est le doyen des études avancées, c'est aussi quelqu'un qui est, bien sûr, membre du CNR. Donc, vous voyez que pour nous, on trouve ça quasiment incestueux.
Oui.
Mais pour les gens de l'époque, avec une vision historique, ces gens-là travaillaient pour construire le système canadien et travaillaient pour le bien public.
Voilà.
Donc, on voit que déjà par ce petit exemple, conflit d'intérêts, ça prend du monde qui ont intérêt à dénoncer le conflit.
Exactement. Alors, j'imagine que tout au long du siècle, il y a d'autres exemples de ça que vous voulez nous expliquer en quelques secondes.
Un dernier exemple pour montrer que ça, c'est pas un exemple particulier, mais qui est assez frappant. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous frappe de conflit d'intérêts? On parle surtout dans les relations en sciences et université-industrie.
Oui, bien sûr.
Il faut voir que si on refait l'histoire du laboratoire Connaught de l'Université de Toronto,
oui.
c'est un laboratoire qui était à l'Université de Toronto, qui produisait des vaccins, qui vendait sur le marché capitaliste.
Des vaccins.
Ça n'a jamais posé de problème. Ça a été créé en 1919 environ. Et jusqu'au début des années 60, qui avait intérêt à dénoncer ça comme étant soit un conflit d'intérêt entre l'université pour le savoir universel et la privatisation à travers les brevets. C'était pas dénoncé. Pourtant, on s'aperçoit qu'à compter du milieu, début des années 60, l'industrie pharmaceutique canadienne se développe et soudain, à l'Université de Toronto, les gens ont des remords. Et par exemple, le président va dire dans le milieu des années 60, oui, mais comment justifie que l'Université de Toronto gère une entreprise manufacturière comme le laboratoire Connaught?
Exactement.
Il se réveille. Mais pourquoi se réveille-t-il? Parce que maintenant, il y a une industrie, donc un intérêt en conflit, qui dit, un instant, là, nous, on veut les vendre, ces
vaccins-là. On veut les faire les vendre,
pourquoi?
Ça.
On veut les faire les vendre et c'est pas l'université à faire ça. Et comme cette année-là, l'Université de Toronto prépare une grande levée de fonds, elle dit, écoutez, il faudrait régler ça parce que comment pouvons-nous demander de l'argent à l'industrie alors qu'elle nous critique de produire des vaccins et on est en conflit d'intérêts en un sens.
C'est ça, et j'imagine qu'on va avoir à peu près la même chose ici avec l'Institut Armand Frappier, lui aussi qui appartient à l'Université de Montréal, qui relevait de l'Université de Montréal et qui lui aussi fabriquait et produisait et vendait des vaccins.
Oui, et donc vous avez très bien compris la logique du système et ça montre qu'on peut généraliser et c'est exactement ce qui s'est passé. De 39 en gros, au début des années 60, personne remet ça en cause, c'est pour le bien public qu'on produit des vaccins.
Oui.
Mais au milieu des années 60, le premier recteur laïque, c'est M. Roger Gouldry, qui arrive de l'industrie pharmaceutique Ayerst.
Mm-hmm.
Donc, pas de surprise qu'au conseil d'administration, on commence à voir la relation entre l'université et les laboratoires Armand Frappier de façon différente. Et on se dit, écoutez, c'est difficilement... On dit comme à Toronto, c'est difficilement justifiable, nous, d'être à la fois, chercheurs fondamentaux et appropriation privée par mise en marché de produits pharmaceutiques qui peuvent être faits par l'industrie privée.
Et alors, Gingras, aujourd'hui, là, si on va très vite dans le temps... On en parle énormément de conflits d'intérêts à l'heure où les universités déposent des brevets, où il y a une multiplication des firmes, par exemple en biotechnologie, dans tous les sens. Ça. J'imagine que là aussi, conflits d'intérêts, il y en a.
Là, maintenant, il y a une croissance exponentielle. Et sociologiquement, c'est aussi lié en partie à la multiplicité des groupes d'intérêts.
Oui.
Plus il y a des groupes d'intérêts en conflit, plus ça multiplie les possibilités qu'un endroit ou une autre, on dénonce comme conflit d'intérêts. Donc, la société est aujourd'hui beaucoup plus fragmentée. Dans les années 20, on croyait au bien public et il n'était pas très fragmenté au bien commun. Aujourd'hui, une fragmentation très grande, multiplication des groupes d'intérêts et donc, ergo, multiplication des dénonciations de conflits d'intérêts. Je dirais même, en étant pessimiste, que la société s'approche d'une forme que le grand sociologue français nommait l'anomie, c'est-à-dire une absence de normes, qui est une lutte de tous contre tous.
Yves Gingras, merci beaucoup.
Merci.